je reconnais quelques visages, certains et certaines sont là depuis ce temps-là, hein, et s'en souviennent, Blanche en particulier. Mais voilà, j'ai aussi de nombreux souvenirs avec votre église ici d'Aubagne, Église Libre, et puis j'en profite pour vous apporter les salutations de l'Église Libre d'Aix. Je n'en suis plus le pasteur du tout, mais en tant que simple membre, j'ai quand même toujours le droit de vous apporter les salutations de cette église qui me reste chère, évidemment. Voilà, je vous propose de lire deux textes. Alors, justement, c'est le sujet pour lequel j'étais venu déjà en novembre 1984. Alors, ce n'est pas moi qui le traitais, c'était avec Jacques Guggenheim, mais j'étais tout à fait associé à son travail. Et voilà, je reviens sur ce même thème depuis tant et tant d'années. Et je vous propose de lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, et nous lirons les 8 premiers versets. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé du Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. Alors, dans le texte d'origine, c'est mes frères selon la chair. J'insiste sur l'expression, j'y reviendrai. Les Israélites ou les Juifs, tout simplement. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Alors c'est la même expression, dans la chair. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée, et cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques, et on retrouve une fois de plus notre expression, en fait, de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Et puis, je complète cette lecture par une autre lecture, toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, cette fois-ci. Je lis à partir du verset 17. C'est ce passage où il est question du fameux olivier, cet arbre qui symbolise le peuple de Dieu et dont des branches ont été coupées et d'autres ajoutées. Si quelques-unes des branches ont été coupées, alors là il s'agit des Juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Et si toi, alors là il est question des non-Juifs, hein, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, alors greffé sur l'arbre par la foi en Jésus, bien sûr, hein, parmi les branches restantes, c'est-à-dire les Juifs qui ont cru en Jésus, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches juives ont été coupées afin que moi, non-juif, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, c'est-à-dire de leur non-foi en Jésus. Et toi, c'est par ta foi en Jésus que tu subsistes. Ne fais donc pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Quant aux Juifs, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, on pourrait le dire de façon plus positive, s'ils ont foi en Jésus, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Alors, ce sont des textes un peu complexes, hein, j'en suis bien conscient, et je vais essayer d'être aussi clair que possible pour essayer donc de les expliquer. Je suppose que beaucoup d'entre vous se posent des questions à propos du conflit entre Israéliens et Palestiniens. On entend cela tous les jours aujourd'hui, en Israël, à Gaza, en Cisjordanie, ou au sujet de l'antisémitisme qui sévit en France et malheureusement de plus en plus, et dans plusieurs pays d'Europe ou ailleurs, et de manière plus générale sur cette haine qui oppose trop souvent des individus et des peuples dans ce monde. Alors autant le dire tout de suite, je ne vais pas répondre en détail à toutes ces questions. Il me faudrait des heures et même des jours entiers, et il resterait encore de nombreuses questions, de nombreux sujets à traiter, d'autant que je n'ai moi-même pas la réponse à toutes ces questions, loin de là. Alors je vais m'en tenir à l'essentiel, sur la base des textes que nous avons lus, et puis de la Bible en général, bien sûr, pour essayer de comprendre un peu mieux la question difficile du rôle et de la complémentarité des Juifs et des non-Juifs dans le plan de Dieu. Au début du chapitre 9 de la lettre aux Romains, nous l'avons lu, l'apôtre Paul énumère les privilèges du peuple juif. Et il termine cette liste par Jésus, le Messie, le Christ, c'est le même mot, hein, Messie ou Christ, il y en a un qui vient de l'hébreu, l'autre du grec, mais c'est la même chose, le Messie ou le Christ, et le couronnement de tous ces privilèges. Il est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, écrit l'apôtre Paul. Les privilèges du peuple d'Israël prennent en effet tout leur sens en la personne de Jésus. Jésus, c'est le Fils par excellence, Dieu le Fils. Il a révélé sa gloire à ses disciples et après sa résurrection, il s'est assis à la droite de Dieu où il règne dans la gloire. Il a inauguré une nouvelle alliance en donnant son corps et son sang, c'est-à-dire sa vie tout entière, pour nous libérer de l'esclavage du mal et nous libérer de ses conséquences, c'est-à-dire la mort. Cette alliance est définitive, c'est ce que les prophètes ont annoncé tout au long des siècles, une nouvelle alliance qui sera définitive, parfaite. Et Jésus, en effet, a parfaitement accompli la loi, puisqu'il a aimé son Père et tous les hommes et femmes de ce monde en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il était parfaitement homme dans ce monde, jusqu'au point donc de donner sa vie. Donner sa vie, il a donné sa vie, il est mort pour obtenir à notre place le pardon de nos fautes. Il est à la fois l'agneau de Dieu, sacrifié une fois pour toutes, et il est aussi le souverain sacrificateur, le prêtre par excellence, pour l'éternité. Et c'est donc désormais par son intermédiaire, il est le seul médiateur, et lui seul, que nous pouvons nous approcher de Dieu et rendre un culte à Dieu. Encore un des privilèges du peuple juif. Jésus est le garant de toutes les promesses de Dieu à Israël. Il est littéralement Emmanuel, Immanuel, Dieu présent au milieu de son peuple. Et c'est en lui que toutes les promesses adressées au peuple d'Israël sont accomplies. Il est donc le Fils de Dieu, l'ultime descendant des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est grâce à lui que la bénédiction de Dieu est rendue pleinement accessible aux Juifs, mais aussi à tous les peuples de la terre. C'était la promesse faite par Dieu à Abraham. Toutes les nations seront bénies par ta postérité. Et Jésus, bien sûr, est l'ultime descendant de cette postérité. Le Messie, Jésus, est donc l'aboutissement de la révélation accordée à Israël. Et il faut le dire de façon très claire, c'est le plus grand privilège, il est lui-même le plus grand privilège de ce peuple que Dieu a choisi. Mais tous les Juifs, depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour, n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Certes, ses premiers disciples étaient tous Juifs, intégralement. Pierre, Jacques, Jean, Marie, et tous, et les 120 le jour de la Pentecôte, et bien d'autres ensuite, 3000, 5000, etc. Mais tous n'ont pas reconnu en Jésus, le Messie, au premier siècle et dans les siècles suivants. Et c'est pourquoi, au début de sa lettre aux Romains, au chapitre 2, l'apôtre Paul souligne que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'apôtre Paul ajoute donc très logiquement que ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. La circoncision du cœur. Alors c'était déjà une réalité pour les Juifs qui plaçaient leur foi au Dieu d'Israël et qui respectaient sa volonté, sa loi, dans le cadre de l'ancienne alliance, où le pardon était déjà accessible, où Dieu se rendait accessible au travers du culte qui lui était rendu grâce au sacrifice offert. Mais cette circoncision intérieure opérée par Dieu et par lui seul, par son esprit, cette circoncision intérieure n'est désormais possible que dans le cadre de la nouvelle alliance, l'alliance annoncée par les prophètes. Elle n'est donc accessible que pour ceux qui reconnaissent en Jésus le Messie, qu'il soit juif ou non. L'apôtre Paul le dit à plusieurs reprises dans sa lettre aux Romains, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous ont accès au salut, à la présence de Dieu dans la foi en Jésus. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul conclut en effet que ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Ce n'est pas le fait d'être circoncis ou pas circoncis. On pourrait ajouter, ce n'est pas le fait d'être juif ou pas juif. C'est d'être une nouvelle créature, un être dont le cœur est renouvelé, transformé par l'Esprit de Dieu. Et cela n'est possible, comme il le démontre d'ailleurs dans cette lettre, que par la foi en Jésus. J'insiste. Il y a donc désormais des juifs selon l'Esprit, qui sont circoncis intérieurement, car ils ont reçu l'Esprit de Dieu lorsqu'ils ont reconnu en Jésus le Messie, le Seigneur. Et puis, il y a des juifs selon la chair, selon l'expression dans le grec à l'origine, comme l'écrit Paul à plusieurs reprises, pour désigner les juifs sur un plan strictement humain. Ces juifs qui ne croient pas en Jésus sont comme des branches coupés de l'olivier qui symbolise le peuple de Dieu, mais ils peuvent être à nouveau greffés, et cela d'autant plus facilement qu'il s'agit du même arbre, à condition cependant qu'ils croient que Jésus est le Messie, comme dit Paul, qu'ils renoncent à leur incrédulité. C'est d'ailleurs ce que déclare aussi l'apôtre Pierre lorsqu'il s'adresse aux Juifs de Jérusalem le jour de la Pentecôte, et ensuite on peut relire les prédications de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, dans les tout premiers chapitres. Maintenant, il nous faut quand même parler un petit peu des non-juifs. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence par dresser une liste alors des désavantages, si je puis dire, des non-juifs par rapport aux juifs. Et cette liste est pour ainsi dire l'inverse de celle que nous avons lue dans la lettre aux Romains. Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme juifs dans votre corps, dans votre chair, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On ne peut pas être plus clair, les non-juifs n'ont rien, strictement. Mais Paul, heureusement, n'en reste pas à cette liste un peu désespérante pour les non-juifs. Car si les non-juifs reconnaissent à leur tour en Jésus le Messie, ils peuvent devenir des êtres nouveaux, circoncis par l'Esprit de Dieu, ils sont greffés sur l'arbre Israël et ils deviennent héritiers des mêmes promesses, des mêmes privilèges que les Juifs qui croient en Jésus. C'est le plan de Dieu depuis toujours de réunir les uns et les autres pour former un même peuple. Il y a donc, exactement comme pour les Juifs, des non-Juifs selon la chair, sur un plan humain, si vous voulez, des hommes et des femmes de toutes les nations, et des non-Juifs selon l'Esprit, qui sont nés d'en haut, de l'Esprit, par la volonté de Dieu et non celle des hommes ou de la chair, comme l'explique Jésus à Nicodème. Dans la foi, dans l'union à Jésus, Paul dit « à travers Jésus, grâce à son sacrifice », il parle du sang, de la croix, « les Juifs et les non-Juifs, selon l'Esprit, forment ensemble un nouveau peuple, un homme nouveau, une nouvelle famille, un nouveau corps, un même temple pour Dieu. » C'est ce que nous lisons dans la suite de la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. « Maintenant, en Jésus-Christ, ou dans l'union à Jésus-Christ, vous tous qui autrefois étiez loin, les non-Juifs, vous êtes devenus proches des Juifs par le sang, c'est-à-dire par le sacrifice du Christ, du Messie. En effet, il, Jésus, est notre paix, lui qui des deux groupes, les Juifs et les non-Juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les non-juifs, et à ceux qui étaient près, les juifs. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous, les non-juifs, n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jésus a été jugé et condamné par les autorités juives et romaines. Il est mort sur une croix, mais il est revenu à la vie pour nous libérer du mal et de la mort, pour couvrir et effacer nos fautes afin de nous réconcilier avec Dieu, Dieu que nous pouvons désormais appeler les uns et les autres. Abba, notre Père, Père. Il nous permet de naître à une vie nouvelle par l'Esprit Saint et il a ouvert la porte de la réconciliation entre les peuples, car lui seul, écrit l'apôtre Paul, a renversé le mur qui nous séparait de Dieu, bien sûr, mais aussi les uns des autres. Je donne juste une petite explication sur le mur de séparation. Je ne sais pas si on voit très bien là sur la diapo, il faudrait peut-être éteindre un peu les lumières, je ne sais pas. Vous voyez le temple, une maquette du temple de Jérusalem au 1er siècle, et vous avez bien sûr le temple et le parvis du temple à gauche, et entre le parvis et le temple, il y avait un mur, un petit mur, et avec un certain nombre de portes, et à chaque porte, il était écrit en hébreu, en grec et en latin, si un non-juif franchit cette porte, c'est au péril de sa vie. Un non-juif n'avait pas le droit d'entrer dans l'enceinte du temple. Et puis dans l'enceinte du temple, les juifs, hommes et femmes, pouvaient entrer dans la première cour, mais pas les femmes dans la deuxième cour. Et dans le temple lui-même, seuls les prêtres pouvaient entrer. Et dans la dernière pièce du temple, ce qu'on appelle le Saint des Saints, le lieu très saint, seul le grand prêtre, une fois par an, pouvait entrer. Vous voyez, il y avait une série de séparations. Jésus a renversé le mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Et Paul ajoute entre les hommes et les femmes et entre les êtres humains de toutes les catégories sociales, de quelque couleur de peau ou de langue que ce soit. C'est quand il dit il n'y a plus ni juifs ni grecs, il y a toujours des juifs et des grecs, mais il n'y a plus de mur entre les deux. Il y a des hommes et des femmes, il n'y a plus de domination malsaine des uns par les autres. Voilà, et on peut étendre dans ce sens. Le mur est renversé par Jésus, le Messie. Mais certains soi-disant chrétiens, hélas, ont vite reconstruit ce mur. Voici ce que dit Paul sur ce qu'il a compris du plan de Dieu pour les juifs et les non-juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de mon peuple, donc les juifs, pour en sauver quelques-uns. En d'autres termes, l'apôtre Paul espère que les non-juifs qui acceptent l'évangile, qui reçoivent ainsi la bénédiction promise en premier lieu aux juifs, il espère que ces non-juifs vont rendre jaloux, alors dans le meilleur sens du terme bien sûr, les juifs qui n'ont pas cru ou qui hésitent encore, afin de les attirer vers Jésus, leur Messie. En portant les bons fruits de la présence de Dieu dans leur vie, ces fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la joie, la bienveillance, vous les connaissez, la douceur. Les non-juifs vont permettre aux juifs de les goûter, de les savourer et de trouver ainsi la bonne semence qu'ils renferment. Vous savez que dans tout fruit dans la nature, il y a une semence, une graine, des pépins, un noyau. C'est la même chose pour les fruits de l'esprit. Et s'ils croquent ce fruit, ils vont trouver eh bien, la semence de la vie, la semence de la grâce de Dieu qui se trouve dans l'évangile du Messie et nulle part ailleurs. Alors que dire maintenant, 20 siècles après que l'apôtre Paul a écrit ces lignes ? Que dire du témoignage des non-juifs auprès des juifs en particulier ? Mais on pourrait étendre hélas à d'autres peuples. Vous connaissez au moins en partie cette histoire douloureuse. Alors, j'ai essayé de résumer en une diapo, mais c'est très difficile. Cette histoire, malgré la mise en garde de l'apôtre Paul, les non-juifs qui se prétendaient chrétiens, je vais y revenir, ont fini par s'enorgueillir aux dépens des juifs et donc par les mépriser et les persécuter. Je pense aux croisades, à l'inquisition, les pogroms, le génocide nazi, la Shoah au XXe siècle, où 6 millions de juifs sont morts, dont 1,5 million d'enfants, tout cela le plus souvent au nom du Christ, ou dans des pays couverts d'églises et de croix. Il faut évidemment ici rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 7. On reconnaît les prophètes, dit Jésus, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu, ses témoins si vous voulez, comme un arbre aux fruits qu'il porte. Ou bien l'arbre est bon et il porte de bons fruits, ou bien l'arbre est mauvais, malade, et il porte de mauvais fruits, et même, on peut dire dans l'histoire, des fruits tout pourris, dans certains cas. Alors il y a eu bien sûr des exceptions à toutes les époques, des non-juifs, chrétiens, plus ou moins nombreux sans doute, bien intentionnés, ou en tout cas sans haine envers les juifs. Mais malgré tout, comment voulez-vous que les juifs, aujourd'hui, soient jaloux de ceux qu'on appelle, à tort ou à raison, les chrétiens, ceux qui se disent les disciples du Christ. Alors que faut-il conclure de tout cela ? Et que pouvons-nous faire, nous, aujourd'hui, ici, à Aubagne, dans notre église, et chacun pour sa part, que pouvons-nous faire face aux conflits de toutes sortes, entre les juifs et les non-juifs, en Israël, à Gaza, entre les Russes, les Ukrainiens, et il y a bien d'autres conflits dans le monde, et peut-être même, hélas, entre les chrétiens eux-mêmes, dans nos familles, dans nos églises. La première chose, il me semble, c'est de revenir au fondement de notre foi. Il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle depuis 20 siècles que celle du Messie, du Christ, Jésus, Dieu le Fils, venu comme un homme dans ce monde. Et donc, comme l'apôtre Paul, nous pouvons commencer par prier. Prier pour les Juifs selon la chair, pour qu'ils soient sauvés, J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé, libéré du mal, de l'esclavage du péché, libéré de la mort par la foi en Jésus. L'apôtre Paul priait tout également pour les non-juifs, puisqu'il se donnait tout entier à la tâche de leur communiquer l'évangile. Donc, il ne s'agit pas de faire partition entre les uns et les autres, mais nous prions pour les uns et pour les autres. Et de ce point de vue, je le répète, rien n'a changé à ce jour. Il y a toujours des juifs et des non-juifs selon la chair, c'est-à-dire des hommes et des femmes réunis au sein de diverses nations, dont l'État d'Israël, qui a toute sa place et sa légitimité dans ce monde. L'État d'Israël est tout à fait légitime dans ce sens. Et je pense pour ma part que ceux qu'on appelle palestiniens ont également droit à un État où ils peuvent vivre en paix et en sécurité, à condition, bien sûr, qu'ils reconnaissent les mêmes droits à leurs voisins. Alors, vous savez, c'était le projet à l'origine. Lorsque les Nations Unies, en 1947, ont voté la création de deux États, l'un juif et l'autre palestinien, mais vous connaissez la suite, les uns ont accepté, les autres ont refusé, ont attaqué, et puis depuis, c'est le conflit qui demeure. Mais quoi qu'il en soit, nous prions pour le salut des uns et des autres, par la foi en Jésus qui a renversé le mur de haine qui se dresse entre eux. Nous pouvons aussi prier, et peut-être en priorité, moi je pense que c'est une priorité, pour nos frères et sœurs qui croient déjà en Jésus, nos frères et sœurs juifs et non-juifs. On parle des juifs messianiques pour ceux qui ont cru en Jésus. Le terme est devenu très ambigu aujourd'hui parce qu'on l'utilise pour ces juifs religieux nationalistes qui colonisent les territoires occupés. Et ça n'a rien à voir avec les juifs qui croient en Jésus. Il faut être très clair sur cet adjectif, malheureusement, qui sème maintenant la confusion. Mais on peut prier pour nos frères et sœurs, juifs et arabes, qui croient en Jésus, en Israël. Ils sont à peu près 15 à 20 000, ce n'est pas très nombreux, mais quand même, ils existent. Ils ont des assemblées, etc. Mais aussi à Gaza, en Cisjordanie et dans toute cette région. Il y a des Arabes chrétiens qui sont nos frères et sœurs, littéralement, et parmi eux, un certain nombre d'églises évangéliques. Nous prions afin qu'ils puissent être gardés et encouragés par le Seigneur dans cette situation compliquée, difficile, douloureuse. Nous prions pour qu'ils puissent porter le fruit de l'Esprit, pour qu'ils puissent manifester l'amour de Dieu, là où il y a la haine, sa patience et sa bienveillance, sa douceur, sa bonté, sa paix, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Nous prions pour qu'ils puissent être les témoins en tout temps et de toutes sortes de manières de la grâce de Dieu, de son amour manifesté en Jésus, par l'Évangile. C'est très difficile pour eux. Je les ai visités à plusieurs reprises, les uns et les autres, et je sais que c'est compliqué cette situation, d'autant plus que de vrais murs en béton ont été reconstruits pour les séparer. Ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Si vous ne savez pas que faire face à ce conflit, commencez par prier pour ceux qui appartiennent déjà au Seigneur et pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bien sûr, nous nous engageons dans le même sens. Nous nous engageons dans notre situation à porter ce fruit de l'Esprit qui contient une semence de vie, afin de rendre jaloux tous ceux qui nous entourent et de pouvoir leur annoncer l'Évangile et qu'ils le reçoivent dans les meilleures conditions. Ce n'est pas possible autrement. Il faut porter les fruits de la présence de Dieu dans notre vie pour être témoin de cette bonne nouvelle. Et sans doute faut-il commencer par nous examiner nous-mêmes, par laisser Dieu sonder notre cœur, accéder au plus profond de nous-mêmes par son esprit, afin qu'il puisse nous transformer à l'image de son Fils et qu'il puisse aussi nous aider à porter les fruits de sa présence, les bons fruits de son esprit. Et nous en avons besoin dans notre couple, notre famille, notre église, nos églises souvent éparpillées, parfois divisées. Nous en avons besoin à notre travail, dans nos loisirs, dans notre vie quotidienne. Je ne vais pas développer le dernier point, mais j'entends un peu votre question. Cette question qu'on pose tout le temps dans toutes les conférences que j'ai pu donner. Et l'avenir ? Et l'avenir ? Qu'est-ce qu'il en est ? Quelle place pour Israël? Quelle place pour les Palestiniens et les autres nations? Est-ce que nous sommes à la fin des temps? J'entends beaucoup cela, ces derniers temps, si j'ose dire. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ces points, et si vous voulez, je peux revenir hein, pour un développement plus complet. Et beaucoup de questions, de toute façon, resteront en suspens. Alors, je vais vous donner un conseil. Ces questions, sur un plan humain et spirituel, sont très complexes. La question politique est très complexe entre les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens. C'est d'une complexité effroyable. Sur le plan spirituel, vous le comprenez un petit peu, hein, c'est pas simple de démêler tout cela. Alors méfiez-vous, comme de la peste, des réponses et des analyses trop faciles, simplistes. À coup de références bibliques piochées ici ou là dans les prophéties ou dans d'autres textes, ou puisées chez des auteurs que j'ose qualifier à sensation. Méfiez-vous de tout cela. Il y a des réponses parfois tellement simples qu'elles ne sont pas du tout les bonnes. Dans certains cas, c'est bien d'être plus simple, mais bon, il ne faut pas évacuer la complexité des choses. Et puis, deuxième conseil, laissons l'avenir au Seigneur. Lui seul connaît cet avenir, lui seul le supervise dans sa sagesse. Alors, ce n'est sans doute pas à nous, comme l'a dit Jésus à ses disciples juste avant de les quitter, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments de l'avènement du royaume. Que ce soit de Dieu, d'Israël, peu importe les termes. Mais il est certain que nous devons continuer d'être ses témoins fidèles, à Jérusalem. Et il y a beaucoup de gens qui témoignent de leur foi à Jérusalem. Je reçois des courriers chaque semaine, parfois chaque jour, de Juifs qui croient en Jésus, qui témoignent de leur foi. En Judée, en Samarie, c'est ce que dit Jésus à ses disciples, et jusqu'aux extrémités du monde. L'Évangile est toujours, toujours, aujourd'hui encore, 2000 ans, malgré l'histoire envenimée, redoutable entre les uns et les autres, l'Évangile est toujours une puissance de Dieu pour le salut des Juifs, en premier lieu, dit Paul, et pour celui des non-Juifs. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, et nous te demandons le secours de ton esprit pour bien la saisir, la comprendre et la mettre en pratique. Et dans ce sens, Seigneur, nous te prions de tout notre cœur, comme l'apôtre Paul qui était prêt à se donner tout entier pour annoncer l'Évangile aux Juifs, ses compatriotes, ses frères selon la chair, et aux non-Juifs, ou pour lesquels il a donné toute sa vie également. Seigneur, nous te prions pour les hommes et femmes de ce monde, pour leur salut. Nous te prions que l'Évangile retentisse encore, soit proclamé, que les chrétiens, tes disciples, ceux qui se réclament de toi, témoignent de cette bonne nouvelle, de ton amour manifesté dans ce monde, par ta venue dans ce monde, par ta mort sur la croix, par ton retour à la vie. Seigneur, c'est notre prière. Nous te prions pour nos frères et sœurs, juifs, non-juifs, dans ce monde, qui croient en toi, qui te connaissent comme le Messie véritable, comme le Seigneur, qui peuvent appeler toi Dieu notre Père, qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous te prions pour les uns et les autres. Nous te demandons de les encourager, de les fortifier dans leur foi, de les bénir, de secourir ceux qui sont tentés, ceux qui sont persécutés, éprouvés de toutes sortes de manières. Nous te prions, Seigneur, de leur venir en aide, de les bénir au plus profond d'eux-mêmes, dans leur situation, dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail. Seigneur, nous te supplions de les aider à vivre ensemble, à réaliser et manifester que tu as renversé le mur de séparation. Nous te demandons cela comme une grâce pour eux. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Nous savons combien nous sommes loin, les uns et les autres, de donner un témoignage toujours bien clair de ta présence dans nos vies, de ton esprit et de ses fruits qui devraient se manifester. Je le confesse pour moi-même. Seigneur, viens-nous en aide. Nous te le demandons. Accorde-nous cette grâce d'avoir plus d'amour, de manifester la paix, de montrer la joie que tu nous donnes dans la réconciliation dont nous jouissons avec toi, les uns avec les autres. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler en nous ta bienveillance, la bonté, tous ces bons fruits qui peuvent persuader ceux qui nous entourent de s'approcher de toi. Nous te le demandons, Seigneur, aide-nous vraiment les uns et les autres dans ce sens. Et nous nous confions en toi. Nous plaçons toute notre confiance en toi, Jésus, notre médiateur, notre Seigneur, notre grand prêtre. Toi qui es aussi l'agneau de Dieu qui a pris sur toi toutes nos fautes. Nous t'en remercions du fond du cœur.